Journal présenté par Tara Schlegel. Bonsoir Tara.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Clément Méric est décédé, le jeune homme de 18 ans, victime d'une altercation hier avec des militants d'extrême droite, et donc mort à l'hôpital des suites de ses blessures. L'enquête semble se resserrer autour d'un groupuscule baptisé Jeunesse Nationaliste Révolutionnaire, groupuscule d'extrême droite. 6 personnes ont été arrêtées. Nous ferons le point sur l'enquête avec Olivier Denré, et notre invité sera Nicolas Lebourg, qui est historien et spécialiste des mouvances d'extrême droite. Dans cette édition, nous irons aussi à Istanbul, où le Premier ministre Erdogan est attendu de pied ferme par les manifestants de la place Taksim. À 18h20, ce sera à vous pour du grain à moudre, Hervé Gardette.
Que pouvons-nous apprendre du Japon? C'est la question que nous allons poser ce soir à l'occasion de la visite d'État de François Hollande dans ce pays. Un pays qui sort de plusieurs années de crise, qui essaie en tout cas d'en sortir. Est-ce qu'il y a un modèle à suivre? Nous en discuterons avec le sociologue Jean-François Sabouret et avec l'économiste Robert Boyer.
À tout à l'heure. Des manifestations partout en France à la mémoire de Clément Méric, à Paris en ce moment même, place Saint-Michel, mais aussi à Marseille, à Lyon, Toulon, Avignon, Aix-en-Provence, Lille, Nancy, Quimper, pour ne citer que ces villes. Des associations et de simples citoyens qui veulent rendre hommage au militant de gauche de 18 ans qui vient de décéder après l'agression dont il a été victime hier. Clément Méric était dans un état jugé désespéré par les médecins. Que s'est-il donc passé exactement dans le quartier Saint-Lazare où la bagarre a éclaté entre Clément, ses copains et des militants d'extrême droite? Dès hier, le parti de gauche annonçait que l'horreur fasciste avait tué en plein Paris. Et l'enquête a déjà bien progressé. Elle se concentre effectivement autour d'un groupuscule d'extrême droite, Olivier Denré.
Oui, l'annonce des 4 interpellations a été faite aux sénateurs cet après-midi par le Premier ministre lors de la séance consacrée aux questions d'actualité. 4 personnes donc ont été arrêtées à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, et placées en garde à vue. 3 hommes et une femme qui auraient entre 20 et 30 ans. Tous feraient partie des jeunesses nationalistes révolutionnaires. Ces skinheads ont attendu Clément Méric hier à la sortie d'un magasin de vêtements après une altercation verbale très politique à l'intérieur de ce commerce qui organisait une vente promotionnelle. Les agresseurs ont été reconnus grâce aux multiples témoignages, aux écoutes téléphoniques mais aussi aux photos prises sur place par tous les témoins de cette scène ultra-violente et dramatique. Cette enquête rapide a été menée conjointement par plusieurs services de police, les enquêteurs du 1er district de police judiciaire, les hommes de l'anti-gang et ceux des renseignements généraux. Enquête sous l'autorité du procureur de la République de Paris. Parmi les skinheads arrêtés, il y aurait donc l'homme qui a frappé Clément Méric hier soir aux alentours de 18h près de la gare Saint-Lazare. Étudiant à Sciences Po, Clément Méric était un jeune homme engagé politiquement. Vous l'avez dit, il faisait du syndicalisme à Solidaire étudiant. Il militait à l'action antifasciste Paris-Banlieue. Hospitalisé hier soir à la Pitié-Salpêtrière, Clément Méric est donc décédé cet après-midi des suites de ses blessures.
Olivier Denré, merci. Alors nous sommes en ligne avec l'historien Nicolas Lebourg. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur associé au Centre de recherche historique sur les sociétés méditerranéennes à Perpignan. Vous avez signé plusieurs ouvrages sur l'extrême droite. Je cite juste « Dans l'ombre » des Le Pen, qui est sorti aux éditions du Nouveau Monde, que vous avez coécrit avec Joseph Beauregard. Alors, il faut bien sûr prendre des précautions d'usage, mais en même temps, on a l'impression tout de même que, comme je le disais tout à l'heure, l'étau se resserre autour de ce mouvement jeunesse nationaliste révolutionnaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce groupuscule?
C'est un groupuscule qui a été fondé 2 fois. Une première fois en 1987, de manière à organiser les mouvements skinheads. Les skinheads, ils ont une conscience de classe prolétarienne, ils fonctionnent en bande. Il s'agissait d'essayer d'en faire un groupe politique. Et puis ce groupe s'était éteint et il a été ressuscité en 2010 dans l'idée d'un nationalisme social. L'idée, c'est un fascisme de groupe. L'idée que la nation, c'est la résistance au capitalisme.
On a l'impression qu'ils sont un peu syndicalistes. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime bien en disant ça, mais sur leur site, on parle de la défense des travailleurs, de la lutte effectivement contre le capitalisme. Est-ce qu'ils ont versé dans une mouvance quasiment syndicale ou c'est vraiment uniquement un groupuscule ?
Alors non, il y a 2 choses très justes dans ce que vous venez de dire. Effectivement, en 2010, leur objectif, c'est de fonder un syndicat nationaliste. En fait, on restera à l'échelle du groupuscule. Mais ils se revendiquent de Georges Sorel. Et vous savez, Georges Sorel, c'est cet homme qui a influencé l'anarchisme en France. Et Mussolini disait, c'est à Sorel que je dois le plus. Sorel est un penseur qui a influencé dans des horizons très divers. Et effectivement, ils sont profondément soréliens. Ils ont cette idée qu'il y a une action directe nationaliste efficace contre le capitalisme.
On connaît Batskin, qu'on dit être le fondateur au moins en 87. Est-ce que malgré tout, ils avaient commis des actes aussi violents jusqu'à présent? Vous allez me corriger hein, si c'est faux.
Alors, justement, le propre de Serge Ayoub, la qualité qui lui a été souvent reconnue à l'extrême droite, c'est qu'il a eu la capacité à encadrer, à organiser ces jeunes gens un peu foutraques, qui étaient des skinheads, manquant d'organisation, très vitalistes. Et justement, la réputation de Serge Ayoub, ça a été d'arriver à canaliser cette énergie pour leur dire « vous pouvez faire quelque chose politiquement de tout ça ». L'exemple qu'ils prenaient dans les années 80, c'était les SA. Les SA en Allemagne, en disant « bah voilà des gens qui étaient les prolétaires et qui, à un moment, ont dépassé leurs problèmes, ont dépassé le stade de la bagarre pour passer au vrai combat politique. »
Vous restez avec nous, si vous voulez bien. On va parler de la façon dont on peut lutter contre ces groupuscules, s'ils sont bien à l'origine de ce crime. Aujourd'hui, Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, a promis devant la représentation nationale de tailler en pièces, c'est le mot qu'il a employé, tailler en pièces ces groupes extrémistes. Mathieu Auger, bonsoir.
Bonsoir.
On voit avec vous si le Premier ministre a les moyens, finalement, par la loi, d'éradiquer ces groupuscules.
En tout cas, ce qui est sûr, Intara, c'est que l'arsenal juridique, lui, existe depuis 1936, à l'époque où les ligues fascistes étaient une menace pour la République. Dans les textes de loi, la dissolution est donc une réalité. Mais là, la piste que souhaite suivre le Premier ministre semble être celle d'une dissolution par décret du gouvernement. Mais voilà, cette dissolution administrative n'est possible que pour des faits de violence très précis, comme des manifestations armées dans la rue, et je cite, ayant pour objectif d'attenter par la force à la forme républicaine du gouvernement, ou provoquant à la haine. Des faits donc très précis et répétés. Or, les groupuscules d'extrême droite sont souvent très mouvants, on le disait, et très secrets. Et puis Tara, même quand ces critères sont respectés, se pose aussi et surtout la question de l'intérêt d'une telle dissolution. Couper la tête d'un mouvement permet-il d'en décapiter l'idéologie? Pas sûr. Les exemples dans le passé sont nombreux, le plus marquant étant la dissolution en 2002 de l'unité radicale de Maxime Brunnery après la tentative d'attentat contre Jacques Chirac. Le groupe a disparu, mais les hommes et les idées sont toujours là. Ils ont d'ailleurs servi de base à la fondation du bloc identitaire un an plus tard, en 2003.
Mathieu Auger, merci. Nous sommes toujours, j'espère, avec Nicolas Lebourg. Qu'est-ce qu'on peut faire donc pour lutter? Vous nous avez dit tout à l'heure que, par exemple, le mouvement dont il est question ce soir avait quasiment disparu et puis est revenu sur le devant de la scène en 2010. Est-ce qu'il y a un moyen de lutter efficacement contre eux?
C'est très délicat. Votre collègue parlait des dissolutions. Il y a deux exemples de dissolutions. Celle d'Unité Radicale, qui est une bonne dissolution, si on a juste dire. Celle en 1973 du mouvement Ordre Nouveau. Après la dissolution d'Ordre Nouveau, on a beaucoup plus de violence. On a des militants qui ne savent pas où aller, qui ne sont pas absorbés par une autre structure. Et beaucoup vont faire le coup de force en solitaire, avec des violences, parfois des violences homicides. En 2002, on a une bonne dissolution, puisqu'effectivement, ça permet le bloc identitaire, un mouvement qui rompt avec toute idée de violence, qui est dans une agite propre, dans une idéologie radicale, certes, mais qui n'est pas dans une action radicale. On a des coups médiatiques, mais c'est tout. Donc, pour réussir une bonne dissolution, il faut qu'il y ait une voie de garage offerte. Il faut que les militants puissent être encadrés plutôt qu'être dans la nature, parce que sinon, il arrive le drame qui s'est passé hier, si vous avez les gens dans la nature. Mmh. Il vous faut un bon ministre de l'Intérieur pour réussir une dissolution. Il vous faut de bons cadres d'extrême droite, de manière à ce qu'il y ait un jeu habile et qu'effectivement, on passe à quelque chose de plus soft, que les militants soient encadrés, organisés quelque part. Donc c'est un équilibre assez délicat. Je reprends l'exemple de la dissolution de l'Unité Radicale en 2002. Le décret dissout une association de fait qui n'existe pas et laisse en place les associations loi 1901, dont un certain nombre vont servir de base à la reconstruction et à la construction du bloc identitaire.
Nicolas Lebourg, juste un dernier mot quand même. Est-ce que vous feriez le lien entre ces groupuscules d'extrême droite et leur visibilité soudaine? On a beaucoup dit qu'on les voyait beaucoup plus depuis les manifestations anti-mariage gay. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre ce qui s'est passé dans la rue récemment et puis cette violence extrême?
Il est certain qu'il y a un climat en France. Les communiqués du printemps français avaient un arrière-goût d'OS. On a entendu des députés rendre hommage à un auteur et à un théoricien racialiste qui vantait la suprématie de la race blanche. C'est des choses qui n'existaient pas antérieurement. Et puis, vous savez, il y a surtout la normalisation du Front National. Ces gens-là, avant, pouvaient aller au FN dans les années 90, où ils pouvaient aller se normaliser tranquillement. Aujourd'hui, le FN ne veut plus d'eux. Ces groupuscules, résultats peuvent les absorber, mais eux ne cherchent pas à les normaliser. Ils cherchent à justifier leur autonomie par la radicalité.
Merci beaucoup Nicolas Lebourg d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'université de Perpignan et historien. Ce soir donc Nadine Morano, j'ajoute donc un mot politique, et Xavier Bertrand à l'UMP dénonce une tentative de récupération politique de la part de la gauche qui aurait justement fait l'amalgame entre les manifestants anti-mariage homosexuel et les crimes commis par l'extrême droite. Amalgame choquant et inacceptable, dit Nadine Morano. Et puisque il n'y a pas de moment pour ne pas faire de politique politicienne. Sachez encore que Jean-Luc Mélenchon, qui participe à la manifestation en ce moment-là, donc pour le parti de gauche, a demandé à ses militants de s'éloigner un peu des militants du Parti socialiste au cours de ce rassemblement à la mémoire donc du jeune garçon qui est décédé, Clément Méric. Nous partons à présent pour Istanbul où le Premier ministre Tayyip Erdogan est attendu. Ce soir, il rentre tout juste de sa tournée au Maghreb alors que le pays connaît des émeutes depuis 7 jours maintenant. Un policier est mort hier, c'est la 3e victime. Il serait tombé d'un pont en poursuivant des manifestants à Adana, dans le sud de la Turquie. Quelques heures en tout cas avant son retour, Erdogan s'est exprimé depuis la Tunisie. Et c'est un discours très ferme qu'a tenu le Premier ministre. Nous sommes en ligne avec Jérôme Bastion à Istanbul. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir Sarah.
Alors vous êtes même sur la place Taksim en ce moment. Erdogan tout à l'heure a refusé la moindre concession aux protestataires et il a parlé d'un mouvement qui serait piloté par des extrémistes et des terroristes. Comment comprendre ce langage ?
Oui Sarah, vous savez, il fallait prévoir et c'était d'ailleurs redouté ici hein, sur la place de Taksim où vous l'entendez peut-être, l'ambiance est festive mais où il y a un monde fou. Il fallait redouter donc que le Premier ministre ne dévie pas d'un iota de la posture qui est la sienne, en fait, depuis 15 ans, voire plus, à savoir, personne ne me fera changer d'avis, malgré cette petite tournée à l'étranger qui lui a fait changer d'air et aurait pu lui inspirer de changer son fusil d'épaule. Mais Recep Tayyip Erdogan ne fera pas marche arrière sur son projet. Il en a prévenu toute la Turquie à quelques heures de son retour. « Nous construirons cette réplique de caserne ottomane tout en préservant l'environnement », a-t-il répété. L'argument écologiste, justement, a été utilisé, selon lui, comme un prétexte pour attaquer l'action du gouvernement, a estimé le chef de l'AKP, qui réaffirme également sa volonté de détruire le centre culturel Atatürk, ce qui ne satisfera bien sûr pas les opposants au projet de réhabilitation de cette place de Taksim. Ils promettent d'ailleurs de l'accueillir avec un concert de casseroles exceptionnel ce soir. Quant aux activistes les plus virulents, ceux qui affrontent chaque nuit les forces de police, eh bien leur réponse ne devrait pas être moins claire.
Alors, comment comprendre aussi ce qu'a dit M. Erdogan quand il parle de jeunes étrangers? 7 personnes auraient été arrêtées à Istanbul. Est-ce qu'il faut prendre cette piste au sérieux? Jusque-là, on avait quand même plutôt l'impression que c'était un véritable mouvement de contestation spontané, général et plutôt populaire.
Oui, écoutez, ces affirmations font beaucoup rire ici. M. Erdogan a révélé depuis Tunis savoir d'où vient la provocation. Un, en fait, et un seul activiste d'extrême gauche qui aurait été mêlé à l'attentat contre l'ambassade des États-Unis le 1er février dernier, on cherche vraiment la relation entre les deux événements, aurait été identifié. Quant aux quelques soi-disant provocateurs étrangers, ils sont tous les 7, sauf un, soit relâchés, soit expulsés du pays. Ce qui signifie bien qu'ils ne sont pas coupables de graves crimes dans ce mouvement de protestation. Mais ces maigres pistes cachent mal le fait que le Parti de la Justice et du Développement, sans doute comme tout pouvoir contesté par son opinion publique, a du mal à comprendre que, face à lui, puisse se dresser un mouvement de contestation, malgré tout le bien qu'il pense faire à sa population. Et c'est pourtant bien ce qui s'est passé, puisque rappelons que c'est d'abord la violence de la police qui, en quelques heures à peine, il y a quasiment une semaine maintenant, hein, c'était vendredi dernier à l'Aurore, a suscité la réaction de dizaines de villes, parfois des petites localités lointaines, tant géographiquement que par leur composition sociologique de la population. Elles se sont ralliées donc au mouvement de contestation de Taksim. Plus de 230 points de manifestation, plus de 98 villes, plus de 50 provinces s'étaient soulevées à l'époque. Une telle mobilisation est totalement inédite en Turquie. Elle ne peut avoir d'autre raison que le ras-le-bol, tout simplement, de la population qui explose lorsque la coupe est pleine.
Merci beaucoup Jérôme Bastion, en direct de la place Taksim à Istanbul. Et on suivra bien sûr le retour de Tayyip Erdogan en Turquie. À Moscou, début aujourd'hui du procès d'une dizaine d'opposants politiques qui avaient osé manifester contre l'élection de Vladimir Poutine. C'était en mai dernier, en mai 2012. On en est aux audiences préliminaires pour l'instant, Marc Crépin, mais c'est un procès qui vise évidemment à museler toute forme de contestation à l'égard du président russe.
En ce procès à huis clos, les 12 accusés risquent beaucoup. Ils pourraient être condamnés au maximum à 8 ans de camp pour avoir résisté à la dispersion d'une manifestation. La plupart des prévenus ont une vingtaine d'années. Ce sont des étudiants qui voulaient simplement, il y a un an, protester contre les irrégularités du scrutin présidentiel qui a permis le retour de Vladimir Poutine au Kremlin. La journée avait commencé par un rassemblement devant le palais de justice. Tous les amis et les familles des accusés s'étaient retrouvés dans le calme. En fait, on reproche aux 12 accusés, dont 10 sont incarcérés depuis un an, d'être responsables de troubles massifs à l'ordre public et pour certains, d'avoir brutalisé des policiers à la fin d'une manifestation, place Balotnaya, le 6 mai 2012. D'après le procureur, ces frêles étudiants auraient malmené les policiers au point que les forces de l'ordre ont relevé 82 blessés. Cela, évidemment, n'est pas crédible et pour beaucoup d'opposants comme Garry Kasparov, qui a choisi aujourd'hui l'exil à l'étranger, on assiste simplement à un retour de méthode qui rappelle les procès staliniens, dit-il. De nombreux observateurs politiques estiment aussi que l'on assiste à un procès pour l'exemple.
Marc Crépin à Moscou. La guerre en Syrie qui s'étend vers le Golan. Des accrochages sérieux ont eu lieu à un poste frontière sur la ligne de cessez-le-feu entre Israël et la Syrie. Des rebelles ont pris possession de cette position avant d'être délogés par l'armée de Bachar al-Assad. L'État hébreu a décrété la zone militaire fermée et n'est pas intervenu. Deux casques bleus ont été blessés légèrement, dit-on. L'Autriche a d'ailleurs annoncé qu'elle retirait ses soldats de la force de l'ONU qui est présente dans le Golan. Sur le plan humanitaire, la Croix-Rouge internationale manque de dons malgré de nombreux appels. L'aide apportée aux réfugiés syriens est sous-financée. Il manquerait 20% dans les caisses de la Fédération internationale de la Croix-Rouge. L'Union européenne, de son côté, vient d'annoncer qu'elle allait débloquer 400 millions d'euros supplémentaires pour aider les Syriens et les pays voisins qui accueillent presque 1,5 million de réfugiés. Enfin, la France annonce avoir transmis aux États-Unis toutes les données dont elle dispose sur l'utilisation du gaz sarin en Syrie. Annonce faite par le Quai d'Orsay. La demande émanait de John Kerry, le chef de la diplomatie américaine. L'État français n'est pas responsable de la mort de Marina. Ainsi en a décidé le tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris. Marina, c'est cette petite fille de 8 ans qui était morte en 2009 sous les coups de ses parents. En juin dernier, le père et la mère de l'enfant ont été condamnés à 30 ans de réclusion criminelle. Mais deux associations de défense des droits des enfants, qui s'étaient portées partie civile lors du procès, ont aussi voulu assigner l'État en justice. Les services sociaux n'ont pas su détecter les maltraitances subies par la fillette. Mais ce soir, l'État est disculpé. En quelque sorte, Véronique Lesseau.
Oui, Tara, et c'est une première judiciaire que des associations assignent l'État en justice. L'État qui était donc jugé ce matin pour faute grave dans l'affaire Marina, cette petite fille, vous le disiez, de 8 ans, décédée le 7 août 2009 des suites des coups et violences avec actes de barbarie commis par ses parents. Le verdict, eh bien, le tribunal d'instance du 13e arrondissement n'a pas condamné l'État. Les deux associations Innocence en danger et Enfance et partage ont été déboutée. Omera Sellier est présidente fondatrice d'Innocence en danger. Elle espérait que la justice reconnaisse les manquements et dysfonctionnements des services sociaux dans cette affaire. Indignée, elle nous rappelle qu'en France, 1 à 2 enfants meurent chaque jour.
Il y a 1 à 2 enfants qui meurent par jour suite des maltraitances subies en France. Ce sont des chiffres énormes pour un pays comme la France qui, de surcroît, alloue un budget près de 7 milliards d'euros par an qui sont prélevés sur les contribuables, les impôts des contribuables, pour aller à l'aide à la protection de l'enfance. Je trouve ça merveilleux, je trouve que c'est bien qu'il y ait des sommes importantes qui sont allouées à la protection de l'enfance. Mais de quelle protection d'enfance on parle s'il y a 2 enfants qui meurent par jour? De quelle protection d'enfance on parle si, dans un cas comme celle de Marina, on ne sait même pas reconnaître qu'il y a eu manquement, dysfonctionnement, manque de suivi.
Et quant aux motivations du tribunal d'instance, selon l'avocat d'Innocence en danger, Olivier Pierre Sûr, la magistrate a fait preuve de mauvaise foi en n'interrogeant aucune des deux institutrices qui avaient pourtant donné l'alerte et relevé à de multiples reprises des traces de coups sur le corps de l'enfant. L'agent judiciaire de l'État, enfin le tribunal d'instance, a en effet rejeté les demandes des deux associations. Les arguments, eh bien, ces dernières n'auraient pas prouvé la faute lourde du service de la justice. Pour leur part, les associations ne comptent pas en rester là. Un pourvoi en cassation n'est pas à exclure.
Merci beaucoup Véronique Lesseau. Un mot du temps qu'il va faire demain. La météo avec du soleil sur tout le pays. Le thermomètre qui va frôler les 30 degrés, notamment dans le Limousin, le centre, en Champagne-Ardenne ou encore en Alsace.